Bonjour à tout le monde, bonjour à Tanguy. Au nom de la librairie Mollard, je suis très heureuse de recevoir Tanguy aujourd'hui à l'occasion de la parution de son nouveau roman, La fille qu'on appelle, aux éditions de Minuit. Alors, ceux qui connaissent Tanguy Viel savent que c'est un fidèle des éditions de Minuit, puisqu'il y publie depuis 1998. Un premier roman qui s'appelle Cinéma en 1999, L'absolue perfection du crime quelques années plus tard, Insoupçonnable, Paris-Brest, La disparition de Jim Sullivan, article 353 du Code pénal en 2017. Et puis après, il y a Iceberg qui paraît en 2019, il y a deux ans de ça, qui résulte d'une expérience conduite entre janvier et juin 2015, des lectures données dans une librairie d'Orléans. Et ensuite, le texte avait été mis à disposition en ligne. Et Iceberg était intéressant dans la mesure où il rompait avec un parti pris qui était celui des derniers livres, des romans, qui était en fait un grand virage pour qui avait lu Tanguy Viel. En effet, dans Iceberg, tu opérais un retour réflexif sur ce qui te mouvait dans ce glissement d'une forme littéraire à une autre. Et je pense notamment à ce que tu écrivais à la fin de la promenade intitulée « Visite chez Montaigne », où tu opposais aux ondulations de Montaigne les hauts murs solidement montés de tes fictions, la fiction qui, selon toi, s'apparente à, et je te cite, « un bloc d'argile ou de pierre qu'il faudrait rendre inentamable, avec sa compression ciselée de figures, d'atmosphères ou d'actions, tenues ensemble par l'intrigue la plus cristalline, sertie en quelque sorte par elle et diamantée jusqu'au dernier angle ». Et tu terminais alors sur quelques lignes qui donnaient un nouvel éclairage sur ton projet, sur Iceberg, et qui le situaient par rapport au pan romanesque de ton travail. Et j'aimerais en fait qu'on t'entende sur ces dernières pages d'Iceberg qui présentent une sorte de mise en perspective du travail romanesque et du travail de l'essayiste.
Oui, pour ne pas dire de la contradiction à l'œuvre, telle que tu viens de le dire, c'est-à-dire en effet ce type de fiction. Alors, je cherche parce que tu as lu quelques lignes qui sont exactement celles-là, c'est-à-dire cette manière de diamanter l'action et la fiction. Et je crois que je terminais comme ça. Or, cette conception-là de la fiction, étroite, rigoriste, tragique, en somme, à son prix, très construite, très corsetée, il arrive forcément consistante à l'étroit, engoncée dans un costume qu'il faut sans cesse réajuster, dans le souci de cet objet si minutieux, si mécanisé, et qui rend par là même caduque les 9/10 de la production de l'esprit, à force d'obliger la pensée à se couler dans l'espace contraint d'un drame. Ça, c'est vrai que c'est à peu près comme ça que je vis l'expérience du romanesque.
Alors justement, l'espace contraint d'un drame, c'est tu y retournes avec, d'une certaine manière, donc avec La fille qu'on appelle. Et alors, je ne vais pas trop en dire sur l'intrigue. Pour ceux qui n'ont pas encore lu La fille qu'on appelle, je voudrais juste dire que le roman repose sur une affaire de mœurs centrée sur question d'abus de pouvoir, de trafic d'influence. Et finalement, je me pose la question, pourquoi ce sujet qui résonne avec une certaine actualité, et pourquoi ce sujet dans le cadre de ce retour au roman à la fiction ? Et pourquoi ce retour au roman, d'ailleurs ?
Moi, je me laisse toujours un peu surprendre par le fait de revenir au roman, quand à chaque fois, j'ai l'impression que j'en ai fini avec le roman, mais je crois que maintenant, c'est fini d'en finir avec le roman. Je crois que j'en ai pour encore quelques années. Enfin, je suis même peut-être vraiment réconcilié avec cette forme, notamment avec l'écriture de ce livre-là, qui n'a pas été si difficile. Mais auparavant, c'est vrai que j'ai toujours été du côté des montagnes russes, de passé, d'états très mélancoliques par lesquels le roman ne prend pas, et puis tout d'un coup des états un peu compulsifs dans lesquels l'écriture se met à s'incarner dans des formes romanesques telles qu'on vient de les décrire, c'est-à-dire en effet des drames très courts, très incarnés, très actifs, si je puis dire. Et voilà, c'est en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une forme de, alors le mot est un peu galvaudé, ou du moins il a un autre sens, mais avant on aurait dit maniaco-dépressif, maintenant on dirait plutôt bipolaire, mais il y a quelque chose comme ça qui fait que je passe d'une forme très horizontale où je rêve d'une écriture qui serait au fond qui suivrait les méandres de la pensée et qui serait celle de l'essai en réalité, et sans doute ce que j'ai essayé d'approcher dans Iceberg. Et étrangement, cette forme-là, à un moment aussi, ne me satisfait pas ou ne répond pas à quelque chose en moi qui est sans doute plus tendu, plus nerveux. Et à ce moment-là, il y a une reprise je suis repris par le besoin d'incarnation. Et au fond, c'est ce mot-là qui me vient le premier à l'esprit quand je pense à ce projet de la fille qu'on appelle, c'est d'avoir eu envie à nouveau de ressaisir un espace-temps précis, théâtral, j'allais dire, au sens de pouvoir sertir la fiction, enfin tout ce qui est plus que la fiction, c'est-à-dire la pulsion d'écrire, l'envie d'écrire, dans des personnages, des décors. J'ai eu envie de choses très concrètes. Je me souviens que les premières images qui me venaient, avant même d'avoir l'intrigue qui allait devenir celle qu'elle est là, c'était des images de casino. Alors j'avais aussi l'image de la ville. Je savais que ça se passerait à cette ville qui m'inspire dans ce roman, qui n'est pas nommé, mais qui est en gros Saint-Malo. Parce que depuis longtemps, je trouvais que c'était une ville très romanesque, avec ce côté théâtralisé, les remparts, la mer, le casino. J'avais des envies de... Alors, il y a des choses qui ne sont pas dedans, mais j'avais des images qui venaient à la fois du cinéma. Enfin bref, j'ai rempli un réservoir qui était le contraire de la spéculation abstraite dans laquelle je me lançais avec Iceberg. Et aujourd'hui, ben, je suis à la fin de ce roman et je me dis que je pourrais peut-être reprendre des essais, mais j'ai quand même envie de continuer le roman. Donc, j'ai l'impression que c'est comme deux lignes qui longtemps se sont contredites chez moi, ou l'une ayant toujours l'impression d'être le bémol de l'autre, je sais pas. Et maintenant, je me dis qu'au fond, on peut faire les deux. On peut être, comme avait dit un jour Pierre Michon, on peut être moine et lubrique.
Oui. Alors, dans ce roman, il y a une dimension de critique sociale. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que la critique sociale t'intéresse ? Ou est-ce que c'est un prétexte ?
Oui, non, il va falloir qu'un jour j'en assume. Sans doute que je suis quand même porté intérieurement. C'est-à-dire que ce livre est aussi né de formes d'indignation. Il est né de la lecture de journaux. Il est né de l'actualité. Il est né de l'air du temps. Donc, il est né de ma présence dans cette ère du temps et d'un agacement, enfin, plein de choses comme ça. Donc, d'une position qu'il faut bien appeler politique, à certains égards. Enfin, le mot est toujours trop fort ou un peu héroïsant, mais en tout cas, ça veut dire que je ne peux pas non plus m'exonérer complètement de ce fait-là. C'est-à-dire que, oui, c'est un livre qui traite un sujet social et qui le traite de manière critique. Donc, il faut bien savoir. Après, c'est vrai que je suis embêté avec ça, dans la mesure où c'est pas le seul. À la fois, c'est la chose dès qu'on dit ce mot-là, on a l'impression qu'on n'a plus trop le droit de dire. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est quand même aussi l'écriture, aussi de fabriquer des jolies scènes. Il y a une sorte d'inféodation par l'urgence sociale ou par le caractère sérieux du politique, qui fait que quand on a dit ça, on peut pas dire, c'est difficile quoi, de dire, mais en fait, je voudrais aussi faire de la littérature, au sens faire juste un roman, faire créer des émotions esthétiques, faire trembler un lecteur, etc. C'est comme si à ce moment-là, on était cynique à l'égard du politique. Et en fait, il faut quand même que les deux se tiennent. Donc c'est là où je peux pas, moi, ça me gêne pas du tout qu'un lecteur fasse une lecture sociale de ce livre, mais je peux pas, moi, dire... Comme ça, j'écris des romans purement sociaux. C'est plutôt le discours que je tiens dessus qui me met un peu à distance, quoi. Mais bien sûr, dans un roman comme celui-là, comment je pourrais ne pas dire ça, même dans le précédent, cette histoire de promoteur immobilier, je veux dire, c'est des éléments triviaux, des éléments qui appartiennent à la chronique des jours, donc à la société quand même.
Et alors, dans ce roman, il m'a semblé que, justement, parce que tu évoquais ton dernier roman, article 353 du Code pénal, il m'a semblé que la fille qu'on appelle se situait dans le sillage d'article 353 du Code pénal, puisqu'il met en scène, toujours sans en dire trop, des luttes de pouvoir qui font apparaître la violence individuelle comme une sorte d'ultime recours, en tout cas chez au moins un personnage, pour faire valoir la justice face à des puissants corrompus, pour le dire vite. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans ton livre, on a en présence deux personnages, un père et une fille, qui vont opter pour deux stratégies de confrontation à l'injustice, à la violence. Le personnage de Laura, qui est un personnage qui va chercher réparation en s'adressant aux forces de police, et le personnage de son père, qui va opter pour une solution qui consiste plus à se faire justice ou à faire justice, à rendre la justice au nom de sa fille, mais par lui-même. Alors je me demandais si c'était délibéré, cette espèce de division entre deux personnages qui incarnent chacun à leur manière, de manière de concevoir la réponse à la justice, la réparation.
Non, je n'ai pas pensé, même si j'ai beaucoup pensé le livre selon les deux lignes parallèles de construction des deux personnages et des deux psychologies. J'ai même, le livre n'est né que du fait d'avoir réussi à nouer ces deux psychologies qui, au départ, étaient deux projets différents, pour tout dire. Mmh. Un projet lié à la boxe d'un côté et le projet de cette jeune femme abusée de l'autre. Mmh. Et c'est le nouage des deux qui m'a permis de sentir que je tenais vraiment un roman et que quelque chose de tragique pouvait se nouer entre ces personnages. Mmh. Donc, sans doute qu'implicitement, tout ça a infusé, c'est-à-dire dans leur façon de produire deux états de fait par rapport à la violence en question, etc. Mmh. Après, j'ai l'impression plutôt que c'est là aussi, il y a un point commun sans doute avec le roman précédent, c'est comme si c'était il y avait plusieurs couches, c'est-à-dire qu'il y a le premier passage à la réparation, c'est la plainte de police. Mais en fait, ça ne suffit pas. Donc, en fait, c'est plutôt l'accumulation. Oui. C'est comme si, en fait, ça s'était infusé à deux étages, quoi. Mmh. Et que je choisis toujours d'avoir ce système de dramatisation parce que dès lors que si j'avais trois personnages, il y aurait trois étages, en fait. Je sais pas jusqu'où ça irait. C'est la lutte armée. mais
la révolution.
Il y a quelque chose qui se dénude dans tous les sens du terme, puisqu'en plus c'est un boxeur. À mesure que le livre avance dans la façon de s'émanciper ou de se libérer, c'est-à-dire qu'au départ, il y a encore une foi dans la justice ou dans la police, etc., dans le personnage de Laura. Quant au personnage du père, qui est un peu plus hors sol, enfin, qui est presque à la limite de la... Enfin, moi, j'ai l'impression de travailler au bord de personnages un peu fous, en tout cas, qui perd un peu ses repères. Dans la dernière partie, il est un peu aussi comme une espèce de il est presque comme s'il était sous drogue en quelque sorte. Et il avance comme ça, et il ne lui reste plus que son corps, c'est-à-dire qu'il a tout sauf une conscience, tout sauf surtout une conscience de l'ordre social qui l'entoure. Donc à ce jeu-là, d'un coup, c'est cette idée qu'il reste plus que son propre corps comme arme fatale contre la puissance, contre le pouvoir, donc c'est cette idée qu'à la fin, ce serait la dernière. Mais je me souviens d'une chose que j'avais lue dans un article un texte de Gilles Deleuze dans les années 80, à l'époque où il avait pris Fait et cause pour la Palestine, et où il justifiait le terrorisme palestinien en disant « quand on n'a plus aucun autre moyen, il ne reste que son propre corps comme arme », c'est-à-dire l'idée de se faire exploser. Mmh, mmh. Alors aujourd'hui, c'est une phrase qui passe plus, surtout... en France en 2021, mais si on le tient juste de manière théorique, il y a quelque chose comme ça chez l'opprimé. Il ne reste plus que son corps.
Oui, puisque le roman met en scène une forme d'impuissance, en tout cas incarnée par le personnage de Laura, à trouver une réponse dans les institutions qui sont elles-mêmes d'ailleurs la cause de tous les problèmes, de tous les maux, puisque en fait, bon, toujours sans en dire trop, on a quand même au cœur de l'intrigue des personnages puissants qui incarnent une corruption extrême. À un moment donné, tu compares deux des personnages à des mafieux. Il y a aussi cette peinture en fait des politiciens comme de ceux-là, en tout cas, comme foncièrement mafieux dans leur comportement.
Oui, alors, bon, là encore, c'est les curseurs romanesques. C'est là où, oui, bon, je n'irais pas jusqu'à dire que ma critique sociale pense le politique comme mafieux. Ce n'est pas tellement l'idée. C'est... Par contre, l'idée, surtout, là encore pour le roman, mais qu'une toile d'araignée s'installe, enfin d'ailleurs c'est une métaphore que je me permets d'utiliser dans le livre aussi, mais et qui tisse quelque chose dans laquelle sont pris des individus qui, eux, n'ont pas voix au chapitre dans cette affaire-là, dans ce tissage de liens et de complicité à tous les niveaux, en effet, et c'est vrai que ça peut toucher le niveau, ben, en l'occurrence, de la petite mairie de province avec son directeur de casino, ses liens d'argent et ses entregens, mais évidemment, ça se déplace. Et ça peut toucher le procureur, et ça peut toucher, etc. Ouais. Donc c'est plutôt cette idée-là qu'il y a des personnages qui sont pris dans une nasse, et que cette nasse, il n'y a pas 50 manières de la faire, d'en défaire les mailles.
Ouais. Alors, tout à l'heure, tu évoquais Saint-Malo, et effectivement, le roman, en fait, signe aussi un retour au cadre breton, à la Bretagne. D'ailleurs, dans un dossier qui t'est consacré, j'en profite pour en faire la promotion, parce qu'il est très intéressant, le dernier numéro d'Europe qui porte sur Alexandre Vialat, mais aussi Tanguy Viel. Dans ce dossier qui t'est consacré, une critique parle de la matière bretonne dans tes romans. Et elle pose la question du. Elle dit que cette matière bretonne pose la question du réalisme dans le roman contemporain, mais aussi, ce que je trouve très juste par rapport à ce que tu en fais, elle dit que l'environnement est chez toi un acteur à part entière du récit, dans tes romans bretons. Au point de voir dans article 353 du Code pénal une fable écologique. Alors, la fille qu'on appelle n'est pas une fable écologique, mais il y a bien toujours dans ce roman un imaginaire géographique qui est commun au personnage de Paris-Brest, qui est commun au personnage d'article 353 du Code pénal. Et par exemple, j'ai été frappée par l'imaginaire de la vague, qui revient, que j'ai trouvé intéressant, parce qu'en plus, il est associé à la fois au personnage de Laura et au personnage de son père. Je citerai juste deux exemples. Laura, à un moment donné, se sent poussée dans le dos par ce que tu décris comme une vague plus haute que les autres, une vague d'où n'aurait plus surgi cette fois aucune naïade ricanante, mais plutôt Némésis en personne. Donc là, l'imaginaire mythologique se greffe aussi sur l'imaginaire géographique. Et puis Max, de son côté, à un autre moment dans le roman, songe, il est sur une civière, songe à une chaloupe dans la grosse mer ballottée au rythme aléatoire des ambulanciers, et il perçoit que l'heure est venue de glisser aveuglément dans la vague et de se laisser faire par elle. Alors, j'ai plusieurs questions à propos de cette matière bretonne. Quel est le statut de cette matière bretonne pour toi? Et puis, le fait que ces personnages perçoivent leur destinée à travers un rapport analogique à la mer et plus spécifiquement à travers ce rapport de soumission à la vague, est-ce que ça dit quelque chose, en fait, d'une certaine manière, de ta façon à toi de percevoir la façon dont sont façonnées les existences? Donc, il y a plusieurs questions en une.
Oui,
mais...
oui, c'est...
Donc, il y a le statut de la matière bretonne, mais il y a aussi...
C'est un plaisir d'arriver à bien répondre, parce que la question m'intéresse beaucoup, mais il va falloir que je me concentre, parce que c'est...
Ouais, ouais. Il y a la matière bretonne, mais il y a aussi cette image de la vague et la soumission à la vague qui revient, en fait.
Alors, la matière bretonne, ce qu'il faut savoir pour... parce que ça, vous n'êtes pas obligé de le savoir. Au départ, c'est tout le corpus médiéval. En fait, c'est les universitaires qui ont inventé cette expression, je crois. Ils appellent matière bretonne tout l'imaginaire de Brostélian, des elfes, Lancelot, la table ronde, etc.
Matière de Bretagne.
Alors, c'est vrai qu'on dit matière de Bretagne, ouais. Vous avez raison.
Elle n'utilise pas la critique.
Je crois que c'est en référence à ça.
Peut-être, elle parle de matière bretonne.
Vous avez raison, c'est matière de Bretagne. Oui, oui. Et alors, tout ça pour dire que j'ai l'impression que chez moi, ça fonctionne aussi comme ça, c'est-à-dire comme un socle très profond, alors je ne sais pas comment l'appeler, mais une espèce que j'associe forcément à l'enfance, de fait que j'ai grandi dans ce pays, sans être d'ailleurs spécialement dans le légendaire, mais d'avoir conservé quelque chose qui peut être commun à l'imaginaire médiéval et à ce que j'essaye de faire, c'est qu'au fond, c'est tout un régime d'images et de métaphores et de pensées de l'individu ou de l'existence qui a à voir avec son caractère, j'allais dire, naissant, c'est-à-dire non fini, larvaire presque. Et que je crois que l'imaginaire de la vague, je l'utilise aussi de la même manière, c'est-à-dire qu'au fond, légendaire, au sens où j'essaye de décrire des processus psychiques, des endroits de l'esprit qui sont des endroits d'enfance, au sens des endroits où c'est pas encore très abouti. C'est pour ça que c'est souvent des métaphores qui me viennent aussi plutôt du côté des personnages en position de faiblesse, parce que c'est des personnages qui sont dans une situation de passivité et qui cet imaginaire-là vient servir cette passivité, c'est-à-dire cette manière d'être glissé, d'être déposé, d'être et d'avoir en même temps là des images, et ça marche aussi avec les images mythologiques un peu, c'est-à-dire qu'elles commencent à dessiner les formes qui vont leur permettre petit à petit et qui vont permettre à moi en écrivant d'élucider ce qui au départ n'est que, j'insiste sur ce terme, de naissant, c'est-à-dire au fond des endroits d'émotion en fait qui sont pas très clairs. Ils ne le sont pas avant que j'écrive, mais qui sont des endroits qui sont aussi une certaine perception du monde adulte, donc du monde du pouvoir, et que, à travers ce mélange-là de métaphores, d'enquêtes sur leur psyché, j'ai l'impression qu'avec la matière de Bretagne ou la matière bretonne, j'arrive à dessiner peu à peu les contours, mais je peux y greffer aussi, c'est vrai, l'imaginaire mythologique grec. C'est-à-dire, parce qu'au fond, c'est ça un personnage mythologique grec. C'est la première force à laquelle on a enfin donné un nom, un visage. Et c'est sans doute ça, la force du mythe, en fait. C'est de tenir dans une forme dans une figure. En fait, c'est le début des figures. Quoi, voilà. C'est des figures archaïques qui portent des instincts, des pulsions, des émotions, etc. Bon, bah ça, mettons que moi, malheureusement, j'écris pas en moins 500 avant Jésus-Christ, donc je peux pas refaire l'Odyssée d'Homère, mais j'ai le droit d'avoir moi aussi mon endroit de nouvelle naissance de sa part de la Bretagne.
Ce qui est effectivement frappant, c'est la similitude d'utilisation, d'instrumentalisation de cette métaphore de la vague. Dans les deux cas, ces deux personnages qui sont centraux et qui sont intimement liés en plus, cette manière de percevoir le destin comme forcément quelque chose qui nous dépasse et qui nous pousse.
Enfin, ça va aussi là-dedans, mais c'est sûr. C'est-à-dire le sentiment, enfin, je pense que tout ce qui traverse le livre... Enfin, qui traverse mon sentiment général d'existence, d'ailleurs, c'est qu'on n'est pas ce qui relève de la raison, de la conscience, ou n'est quand même pas grand-chose dans ce qui nous meut, ce qui nous déplace. Que ce soit pas forcément les autres, hein, c'est-à-dire c'est pas forcément seulement le pouvoir qui nous ballotte, mais soi-même, on se ballotte tout seul dans des espaces, des endroits où, sur lesquels on n'a pas beaucoup de prise. Enfin, donc c'est aussi ça que, évidemment, pour le coup, l'imaginaire plus simplement marin, en général, dans sa liquidité. Et dans son caractère aussi éventuellement tempétueux, permet de remettre en scène, enfin, de rejouer quoi.
Ce qui du reste en fait répond aussi à la manière de caractériser le personnage de Laura, qui est un personnage dont on a le sentiment figurément qu'elle ne contrôle pas grand chose, puisqu'elle n'arrête rien et qu'elle ne cesse de le dire.
Et en même temps, et je crois qu'elle est quand même, et c'est ça son paradoxe, c'est qu'elle est intelligente et lucide sur ce qui lui arrive, ou en tout cas, elle l'est au moins au moment où elle dépose devant les policiers, mais elle l'est sans doute dans les gestes, dans les actes, dans les moments même, ce qui ne produit rien en elle, justement. C'est-à-dire sa lucidité ne fait rien. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez justement au milieu d'une grande vague, vous vous dites, ah bah, tiens, je suis au milieu d'une grande vague. Mais votre intelligence, elle ne vous sert à rien, vous êtes toujours au milieu d'une grande vague.
Alors, tu parlais tout à l'heure de la figure du boxeur, et de fait, dans tes procédés stylistiques récurrents, caractéristiques, il y a les analogies. On vient d'en voir une avec la vague. C'est une modalité majeure de ton écriture. Et d'ailleurs, au passage, Iceberg, si je me souviens bien, s'ouvrait sur une métaphore maritime aussi. Et alors, indépendamment de la vague, des métaphores maritimes, j'ai été frappée donc par cette figure du boxeur qui est centrale dans ce nouveau roman et qui fait écho, peut-être ou pas, je ne sais pas si c'est délibéré ou non, à une analogie qui met en place aussi une figure de boxeur qu'on trouve dans Iceberg, rapportée à l'expérience esthétique. Alors, je ne sais pas si tu veux, c'est page 87 dans Iceberg.
Alors il faut dire que c'est... Oui. Bah, c'est pas faux, il y a à voir. Je vais le lire, le passage, ça va être plus clair pour vous, je pense. Oui, c'est-à-dire que ça venait d'une phrase de Borges qui dit « L'imminence d'une révélation qui ne se produit pas est peut-être le fait esthétique. » Une phrase peut-être un peu abstraite sortie de son contexte, mais enfin, dans l'idée générale, ce serait qu'il y a une sorte de... Toujours, il y a une tension, un suspense de quelque chose qui doit advenir, un secret qu'on doit démêler, une énigme qu'on doit résoudre, et qui est dans cet espace-là, cette antichambre-là, que, au fond, est la vraie beauté, enfin. Et non dans la résolution, justement. Donc, je m'étais permis de commenter cette phrase en écrivant « Ce serait comme un boxeur à l'entraînement, accomplissant cette longue courbe initiatique dont l'horizon serait, en dernière station rêvée, l'apparition à la lumière du ring, mais à qui il importe de reculer infiniment l'heure de la dernière scène, piétinant dans le couloir qui précède le combat. Nous, spectateurs de films de boxe, nous savons cela, qu'il ne peut rien arriver au héros avant cette dernière scène, parce qu'il n'est pas encore vraiment dans l'arène. Il tergiverse, il procrastine, il doute et s'entraîne sans relâche, et nous savons que c'est là son véritable déploiement, hors de la grande scène lumineuse filmée au ralenti, essayant encore de retarder comme elle peut la trop pure lumière du dénouement. » Oui, c'était... c'est exactement de là qu'est parti... Pas en écrivant ça, hein, c'est revenu un an ou deux ans plus tard, la figure du boxeur et l'idée de faire un roman sur la boxe est née profondément de cette histoire très métaphorique de ce qu'était l'écriture pour moi. C'est-à-dire... justement un espace dans lequel je pouvais rêver qu'il y ait un moment de pure incarnation qui était un peu l'horizon du livre et qui pour moi est le roman, c'est-à-dire puisqu'on est parti au départ sur l'opposition entre les essais et le roman dans mon travail, puisque les essais sont cet endroit un peu flottant, il y a des moments où malgré cet espace finalement assez agréable de la certaine jouissance mélancolique dans l'essai, il y a quand même ce moment où tout ça doit venir se dire quelque part, et les figures du boxeur est née de ça. Ce besoin d'incarnation et de, quand même, au fond, presque de contredire la phrase de Borges pour dire non, il me faut quand même un ring, il faut quand même un moment qui est une vraie scène, parce que je ne peux pas tenir que dans la procrastination ou dans le sas qui précède. Et le roman, pour moi, c'est ça. C'est pour ça, sans doute, que j'écris des romans courts et que je les écris vite, parce qu'ils sont, à l'échelle de mon travail d'écriture, des moments de condensation, de compression, qui viennent conclure ou rejouer ce qui avant a fait que tourbillonner pendant des mois et des mois. C'est comme ça qu'est née cette figure de boxeur, en me disant, mais pour cette fois, je ne vais pas juste me dire que ce serait comme un boxeur, je vais mettre un boxeur, parce qu'il avait un corps, et j'avais besoin d'un corps, j'avais besoin de muscles, j'avais besoin de virilité, je ne sais pas, pour reprendre les rênes sur mon propre esprit, en quelque sorte. Et puis est venu immédiatement se greffer tout l'imaginaire qui me plaît beaucoup, très américain pour le coup, très cinématographique, que la figure du boxeur a généré aussi vite. Donc j'ai regardé des films sur la boxe. Enfin,
demandé, est-ce que tu regardes des films sur la
boxe? Oui, je me suis beaucoup aidé pour, là aussi, il faut nourrir la bête un peu, il faut se repeupler, parce que sinon ça reste du fantasme, mais il faut donner des... Donc j'ai regardé un peu tout ce qu'il pouvait y avoir sur la question. Et puis, petit à petit, tout ça a mariné et a donné cette idée de faire ce parcours de boxeur, mais qui tout seul, encore une fois, ne suffisait pas à faire le roman. Sans doute parce que je l'avais un peu enferré justement dans cet imaginaire cinématographique, et je sentais que je faisais un exercice, quoi. Il y avait quelque chose qui prenait pas complètement. C'est seulement avec l'histoire de Laura que quelque chose d'autre est advenu, quelque chose de beaucoup plus brûlant, plus actuel, plus dangereux pour moi, parce que justement, pour revenir sur ce qu'on disait sur la critique sociale, le caractère, plus la porosité avec le réel, j'étais le premier surpris de pouvoir être convoqué comme ça par un sujet comme celui-là, et de pouvoir le tenir parce que j'avais de l'autre côté le pan cinéma, et le pan cinéma et le pan fait divers, si je puis dire, les deux, en se superposant, ont permis l'écriture, en fait. J'aurais pas tenu, peut-être, dans tout l'un ou dans tout l'autre.
Alors, j'aimerais creuser, justement, cette question des analogies à partir de la métaphore, parce que ce qui m'a frappé dans ce livre, donc, comme je l'ai dit, l'analogie, c'est une de tes marques de fabrique, et la métaphore en fait partie, bien sûr, une des figures de l'analogie, mais il m'a semblé que ce roman en particulier se caractérisait par une sorte de saturation métaphorique. Et je voudrais que tu nous lises un passage qui se trouve page 56-57, qui est une longue métaphore filée autour de la représentation d'un personnage qui s'appelle Hélène. Et ce passage est intéressant parce qu'il y a un glissement qui, pour moi, en fait, témoigne d'une espèce d'excès, de saturation, en fait.
Alors savoir comment et quel jour elle était entrée dans la vie de Max, cela s'était perdu dans les ombres du temps, mais portée par la nuit comme un pollen dans l'air, elle a fini par tomber dans ses bras sous la lumière d'une boîte de nuit, puisque c'était là le monde exotique que Max avait adopté, et son biotope à elle. Abeille plus que pollen, en vérité, fécondant du regard tous les hommes-fleurs assis près des comptoirs. À Max, donc, il arriva d'en être, de ce monde inversé où certaines femmes butinantes se glissent volontiers dans la corolle des hommes et les délestent alors de toutes leurs étamines, à ceci près que les étamines ici ont la forme de billets de 100 euros, que par dizaines ils sortent de leur poche et distribuent sans compter. Elle, guêpe plutôt qu'abeille, qui ne pollinise rien du tout, plutôt dissémine les graines au gré des vers. Hélène, plus acharnée que toutes, ayant fait admettre cette loi tacite et inaliénable que c'était son prix et sa liberté à elle, la plus onéreuse et la plus libre des hôtesses.
Et ce que je trouve intéressant, c'est en fait que la métaphore est filée, mais en fait elle évolue, elle glisse.
Ça n'arrive pas très très souvent, c'est assez miraculeux quand ça arrive, parce que c'est les rares moments où l'écriture est productive, si j'ose dire. C'est-à-dire, elle découvre un réel qui jusqu'alors était encore... Enfin, un réel mental, mais qui jusqu'alors est encore un peu... Donc, moi, j'ai une première image, et puis je me rends compte que c'est grâce à la phrase qu'elle s'éclaircit et que peu à peu, elle peut dériver. Et que, il me semble que cette dérive n'est pas une dérive... une dérive... à des fins d'obtenir plus de vérité, si j'ose dire. Sur, mais alors, qu'est-ce qu'elle est vraiment? Est-ce qu'elle est... Bon, elle est comme du pollen, d'accord, en fait. Mais non, elle est une abeille, plutôt que le pollen. Ah oui, mais en fait, c'est pas une abeille, en fait, c'est une guêpe. Donc, il y a ces effets de correction permanente qui sont censés approcher, poétiquement, si je puis dire, quand même quelque chose qui a à voir avec la vérité intime, atmosphérique et, j'allais dire, psychique des relations de ces personnages. Mais de manière plus générale, c'est vrai que moi aussi, je me suis rendu compte que dans ce livre, je poussais vraiment très fort les curseurs de la comparaison et de la métaphore, plus que d'habitude. Dû sans doute à ce narrateur, à la troisième personne, qui tout d'un coup m'a ouvert aussi une liberté sémantique, enfin un droit aussi à naviguer dans parce que contrairement au personnage narrateur que j'ai d'habitude, qui est un peu coincé dans son expérience et donc aussi sa langue est le fruit de son expérience de personnage. Moi, narrateur, j'ai un peu plus de... Donc je peux aller piocher dans différents registres beaucoup plus largement, donc ça peut être très intellectuel quelquefois, très sensible autrefois, mais en gardant quand même la métaphore comme outil privilégié, parce que ça me semble être l'enjeu de la littérature, au sens, pas seulement pour faire joli, mais parce qu'encore une fois, c'est le moyen d'atteindre des zones du sensible que le concept n'atteint pas, ou en tout cas, difficilement, quoi. Donc, je voyais bien que dans ce livre, il y avait ça, et peut-être aussi que cette saturation était aussi un moyen, peut-être, de me protéger, au risque du maniérisme, mais de, là aussi, de sortir du fait divers, c'est-à-dire de quitter la chronique. Ouais, ouais. Et donc, j'avais sans doute besoin de ça aussi, de un peu barder le texte, pour lui donner, enfin, le faire sortir un petit peu de cette boue, cette fange du quotidien, là, de ces histoires un peu sordides et dans lesquelles, quand on met les mains dedans, on a quand même l'impression de se salir un peu, quoi. Et de salir aussi un peu la littérature, de la descendre dans des espaces. Enfin, c'est comme ça qu'en tout cas, moi, j'ai besoin de me percevoir écrivant.
Ouais. Après, sur ce passage-là spécifiquement, j'ai l'impression aussi que le fait qu'il y ait ce glissement métaphorique que tu signales d'une certaine manière, ou que le narrateur signale, en tout cas, c'est aussi une manière de montrer les coutures du livre, enfin, de signaler le livre en train de se faire, la littérature en train de se faire. Ce qui m'amène aussi à la dimension réflexive, en fait, du livre, à sa dimension métatextuelle, en fait. Il y a une sorte de réflexivité qu'on trouve au début du chapitre 6, mais ailleurs, bon, on peut en prendre un exemple sur le tout début du chapitre 6, si tu veux, page 52, où le narrateur va glisser des remarques de nature réflexive, métatextuelle. Donc c'est quand même un narrateur qui est un narrateur cultivé, un narrateur...
Ben, c'est pas, parce qu'en fait, il change tout le temps, il est assez polymorphe, ce narrateur. Mais bon, en l'occurrence, il dit... Mais je pensais à ça que tu fais référence. Dans toutes les histoires, il y a cela, un passé minéral qui sert de socle à tous, du genre qui, dans les livres, se rédige au plus que parfait, paysage de ruines qu'on trouve en arrière-plan sur certains vieux tableaux. Bon, ouais. Alors, c'est vrai que là, il est un peu intelligent, mais quelquefois, il est... C'est-à-dire que je crois que c'était... C'est bizarre parce que j'ai toujours eu le sentiment, comme quoi, c'est quoi un narrateur? C'est très étrange parce que, enfin, on peut décider hein, que c'est une figure très stable, etc. Mais en fait, moi, ça fonctionne musicalement. Mais la musicalité, c'est pas seulement des alexandrins ou faire des jolies phrases. C'est une certaine manière de changer d'humeur. Et changer d'humeur, c'est changer de registre et c'est changer de regard, en fait. Et ça veut dire que pour ce narrateur, à la fois, par moment, j'ai l'impression qu'il est comme une sorte de presque comme une sorte de présence invisible, fantomatique, dans les scènes et qui approche les corps des personnages. Quelquefois, il est presque à l'intérieur de ces personnages. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de discours indirects, je pense, dans le livre. Et puis, par endroits, en effet, il a un regard plus architectural sur l'ensemble du livre ou sur l'idée même d'écrire. Mais je ne l'ai jamais fait. Enfin, c'est vraiment une forme qui n'en a pas, en fait. C'est pour ça qu'il est à la troisième personne. Mais c'est aussi pour ça que, par moment, j'avais besoin d'un jeu. Parce que quelquefois, il dit « jeu ». Parce qu'il se présente, et puis il se retire, et puis il se... Je ne sais pas comment on appelle ça, ce truc qui change tout le temps, ectoplasmique un peu. Et donc, voilà, c'est ce qui est très étrange, c'est d'avoir... j'espère que c'est quelque chose qui peut être partagé pour le lecteur, mais qu'il ne me semble pas qu'il y ait de fausses notes quant au narrateur. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, c'est bizarre qu'il dise ça, alors que normalement il est ça, mais... Mais peut-être qu'on se le dit, mais en tout cas, moi, j'ai un sentiment très fort d'homogénéité et qui tient, encore une fois, à quelque chose d'autre que la question simplement de ça. Ça tient à la... Je sais pas, c'est comme c'est une musique, mais c'est aussi une caméra qui glisse. Il y a quelque chose qui a à voir avec le mouvement, le rythme et la focale. On peut changer de focale. Mais c'est un drôle de narrateur, oui. Alors, c'est pas mon livre le plus réflexif pour autant.
Non.
Je pense qu'il est quand même très modeste ou discret, ce narrateur, quant aux questions.
Oui.
Mais c'est vrai que forcément, moi, je ne peux pas... Enfin, ce qui est un des grands moteurs de l'écriture, et là, tu fais un lien, je pense, assez juste quand tu disais qu'au fond, les métaphores elles-mêmes faisaient partie déjà de la réflexivité. C'est-à-dire, au fond, je vois bien que c'est parce que je suis toujours en train de me demander comment écrire la chose que je pousse loin certaines enquêtes métaphoriques, en fait, en quelque sorte. Parce que c'est toujours le truc... C'est ça, la réflexivité. C'est pas faire le malin en disant « je suis en train d'écrire un livre », c'est dire « mais au fait, comment est-ce que je peux faire pour écrire ça ?» et intégrer dans l'écriture cette inquiétude-là.
Voilà.
Et ça prend quelquefois des figures de la métaphore, et quelquefois ça prend une attaque de chapitre comme celui-là, qui est plus une manière de se dire... Enfin, moi, je veux dire, c'est très simple, ce chapitre-là, c'est... Je me dis, bon, il faut que je fasse un flashback. Ça m'emmerde. J'aime pas les flashbacks parce que ça casse la dynamique du livre, etc. En même temps, là, je suis coincé. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse. J'arriverai pas à glisser toutes ces informations au fil de l'intrigue, l'air de rien. Donc, il va falloir faire un chapitre flashback. Bon, je recule. Et pour arriver à le faire, ben, tout ce que je trouve, la parade, c'est d'écrire la phrase que je viens de dire. Voilà. C'est-à-dire, dans tous les livres, il y a ça.
Ouais.
C'est ma manière à moi de réussir à rentrer dans mon chapitre. Et en effet, c'est presque par culpabilité, par gêne, que je finis par réfléchir sur le livre et à me dire, partageons ça avec le lecteur, cet endroit-là, quoi, ce ratage, en quelque sorte.
Oui, puis c'est aussi, finalement, une manière d'attirer l'attention sur des passages obligés, sur...
Si possible, rendre le lecteur complice de la difficulté qu'il y a aussi à construire un livre sans... Alors, on peut toujours s'enorgueillir de dire que ça s'appelle la distanciation et que c'est aussi une manière de rendre le lecteur intelligent. Mais en premier lieu, c'est surtout une manière de se le mettre dans la poche, je pense.
Alors, ce narrateur, d'ailleurs, il est... À un moment donné, il attire notre attention sur les échanges assez opaques, sur les ellipses qu'on trouve dans une conversation entre Le Bars et Bellec, des protagonistes du roman, puisqu'on les voit parler à mots couverts, se comprendre sans finir leurs phrases. Et du coup, je trouvais ça intéressant parce qu'ils contrastent avec ce qui caractérise la langue du narrateur, qui est, elle, toujours soucieuse de précision. Et du coup, effectivement, je me disais, dans le sillage de ce qu'on vient d'évoquer, qu'il y avait ce dialogue du début du chapitre 5, il mettait en plus en exergue la saturation propre au narrateur en creux, en attirant l'attention sur les creux qui eux-mêmes définissent la conversation de ces deux personnages. Donc il y a aussi ce jeu de mise en abîme presque... Bon, je dirais pas que ces deux personnages sont des personnages de James, on n'en est pas là, parce qu'effectivement, ils disent sans dire, mais le narrateur met en évidence aussi, alors, puisque tu parlais d'inquiétude tout à l'heure, et je sais que c'est un sujet qu'on avait abordé ensemble il y a quelques années, l'inquiétude en littérature, le narrateur me paraît aux antipodes d'une sorte de littérature empêchée, qui est quelque chose qui te fascine par ailleurs. Donc, est-ce que là aussi... Il n'y a pas une tension entre Iceberg, qui parlait beaucoup de cette littérature empêchée, tout en n'étant pas, l'incarnation, et puis ce livre-là, que je trouve justement très, bavard d'une certaine manière, pas dans un sens péjoratif, mais très bavard.
Oui, oui, c'est sûr que c'est le renvers du truc. C'est, moi, je continue à considérer que un certain empêchement à dire simplement les choses, d'une certaine manière, à faire mouche, produit de l'écriture. Donc, que ce qui est bavard ou ce qui est florissant ou ce qui est tout d'un coup justement produit des figures poétiques, c'est quand même grâce un petit peu, je ne vais pas le dire de manière trop pédante, mais si quand même, c'est quand même un peu la négativité à l'œuvre qui fait que, puisque je n'arrive pas à dire, je vais trouver des ruses. Et puisque je vais ruser, ça va s'augmenter. En fait, il y a le moins produit du plus. Voilà, ça, c'est une manière moins pédante de le dire peut-être. et tout aussi vrai, parce que c'est vraiment ça, le phénomène qui se produit. C'est une chose que j'ai toujours admirée, par exemple, chez Faulkner ou chez Claude Simon, c'est en permanence sentir que d'essayer d'approcher par d'infinies corrections, des peut-être, des ou plutôt, d'approcher une vérité de l'émotion, du sentiment, de la réalité qui nous entoure, et que, encore une fois, c'est justement l'empêchement, ou peut-être pas l'empêchement, mais l'ignorance, ou le fait, l'incertitude, la fragilité. Enfin, c'est tout ce champ-là que j'essaye de défendre, notamment dans Iceberg, et qui, certes, quelquefois prend des formes tragiques, parce que l'écrivain empêché, c'est celui qui n'écrit pas, mais le bon écrivain est quand même un peu empêché, parce qu'un écrivain qui n'est pas empêché du tout, c'est pas très intéressant.
C'est pas de la littérature, disons, en tout cas.
Non. On peut pas le dire autrement.
Alors, ce qui m'a intrigué aussi, ce sont les toutes dernières lignes du roman. On ne va pas les lire parce qu'elles en diraient trop, mais il m'a semblé qu'à la toute fin, tu attirais à nouveau notre attention sur le processus de fabrication de l'œuvre, ou plutôt à l'inverse, alors que à intervalles réguliers, sans que ce soit très insistant non plus, c'est pas un motif omniprésent, mais tu attires notre attention sur le fait qu'on a affaire à de la littérature, c'est une fiction. À la fin, il y a quelques lignes qui semblent nous suggérer que c'est une littérature documentaire. Voilà. Je ne veux pas en dire plus, mais il y a une sorte de référence
Je peux en dire plus.
De mimer les codes du film documentaire. Alors,
C'est-à-dire du film.
Du film documentaire.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un épilogue qui raconte le destin des personnages après la fin du livre. Et
comme
c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve souvent, notamment dans les films, les films de procès, par
exactement.
Exemple. Où on va dire, machin a pris 50 tôles, il a vécu jusqu'à 75 ans. Oui, et donc, c'est vrai, ça donne... Mais je l'ai fait, effectivement, tout à fait pour ça. À la fois parce que j'avais le sentiment que le destin de... Enfin, quelque chose n'était pas clos. Simplement au niveau de l'intrigue, parce que c'est vrai que j'avais laissé en suspens toute la question du procès de la plainte de Laura, donc il fallait la résoudre. Mais ça, c'est pas tant grave, parce que après tout, on pouvait supporter de rester à cet endroit-là, mais j'en avais besoin un peu pour ça. Et un peu parce que tout d'un coup, je me disais, mais j'ai besoin de croire moi-même que cette histoire est vraie. Ce qui est le contraire de ça. J'ai fabriqué une fiction, certes, infusé par des faits divers réels, mais quand même profondément fictionnels. Et à un moment, quelque chose me faisait dire, mais en fait, je voudrais renouer ce contrat-là. Vériste, presque. Enfin, genre, ceci était une histoire vraie.
Chose de parodique,
mais c'est
en
faux,
fait.
Voilà.
Parodique, mais voilà.
Pas tant que ça.
Non.
Ça pourrait, enfin, je veux dire, en tout cas, ça joue un peu avec ça, mais je le prends au sérieux.
J'ai eu l'impression d'une moquerie, moi, en fait. Quelque chose qui était de l'ordre de... Bon, alors d'autres vont mettre en avant systématiquement le fait que leur roman s'appuie sur... ou leur film s'appuie sur les faits réels, etc. Donc,
Alors, je ne sais pas. Bon, ce qui est vrai, c'est que c'est un paradoxe, puisque ça joue cette carte-là, alors que le livre est une fiction. Mais pourquoi pas? Il y a sûrement... Enfin, ce serait sûrement une lecture possible, que celle de l'ironie, mais je ne peux pas te dire que c'est ça qui a mu totalement l'envie de le faire. C'était... Je ne sais pas. Comme s'il disait, en fait, c'est que ça. C'est que la vraie vie, en fait, le roman. Je ne sais pas. Un truc comme ça, étrange.
D'ailleurs, en fait, on peut aussi lire le roman et s'arrêter, en fait, au dernier paragraphe et ne pas se rendre compte, d'une certaine manière, comme c'est sur une autre page, etc. Enfin... Moi, j'étais presque à deux doigts, en fait, de m'arrêter, parce que je sentais qu'il y avait une clôture, quand même.
Et toi, ça ne t'intéresse pas de regarder à quelle date le livre a été fabriqué. Parce que normalement, c'est la page d'après.
C'est écrit. Voilà, c'est ça. Mais quand même, j'ai quand même tourné la page, je me suis dit, tiens, ah, en fait, ça ne s'arrête pas tout de suite. Voilà. Je crois qu'on peut remercier Tanguy Vielle, en tout cas.
Merci. Merci, Véronique.